Toujours. On se dit qu'on a l'habitude, mais on n'a pas l'habitude. Hein. Ça, donc, bonjour à tout le monde. Je ne peux pas avoir tout le monde parce qu'on est, comme on partage l'écran, on est dans les petites images là. J'ai affiché la photo de la famille qu'on a prise cet été, qui vous permet de voir la famille. Donc, Sylvie. Voilà, vous voyez, et nos trois enfants, Anastasia qui est à la gauche, Pascal, notre fils, et Juliette. Juste pour ceux qui aiment les dates et les points de repère, dans cette époque maintenant, il y a 5 ans, j'ai rencontré Bill Cavron, l'ancien de Paris 15, pour la première fois. Donc, ça fait que 5 ans que nous, en tant que famille, pense à venir à Paris. Pensez à l'époque, on ne savait même pas. Et donc, et ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on est sur place à Paris. Donc, c'est vraiment une joie pour nous d'être parmi vous, d'être dans ce travail à la fois très local, ici dans le 15e, mais aussi à travers le réseau des églises Paris Intramuros, dans cette dynamique Paris Intramuros. Peut-être juste un petit nouvelle. On parle de ces différentes églises qui sont dans des... Voilà, on a Cèpe République, Gobelin, Paris Beau-Grenelle, maintenant Paris 15, les Épinettes, Nation Montreuil, là-bas. Et peut-être juste une petite nouvelle des Épinettes, parce que pour ceux qui ont suivi, on sait que c'est une église qui, certainement des responsables arrivaient à un certain âge où c'était difficile de maintenir. Et j'ai prêché là il y a à peu près un mois et je peux dire que c'était vraiment encourageant. Il y avait une trentaine de personnes avec beaucoup d'enfants. Il y a des nouveaux responsables qui sont en train de prendre responsabilité. Et cette petite église dans le 17e, dans le nord du 17e, est en train de progresser et c'est très très encourageant. Donc continuez, pour ceux qui le connaissent, priez pour Eric Jones. Sa santé n'est pas le meilleur, mais il est toujours là, mais il a pu laisser ses responsabilités. Ruben, Andreas Baudet, d'autres prennent le relais et c'est très très encourageant. Donc ça, c'est une petite nouvelle pour ça. L'autre nouvelle, juste pour ceux qui ne savent pas au niveau de votre assemblée, mais on est en train de vivre une expérience assez inédite au niveau des églises Paris Intramuros. On a un groupe de responsables qui se retrouvent une fois par mois le mercredi soir. Et on est, au niveau des personnes inscrites, on était 40 et on suit une formation ensemble des 5 églises et c'est très, très encourageant. Donc, Dieu est bon. Et au-delà de ces activités, notre prière toujours et notre désir toujours, c'est de comment vivre le commandement de Jésus, d'aller faire les disciples de toutes les nations. C'est un appel individuel et collectif qu'on a besoin de vivre. Et je vais toucher un peu sur ça aujourd'hui dans mon message, parce que depuis un moment, comme vous le savez, je circule, je voyage dans les différentes églises. J'essaie d'amener, quand je viens, un enseignement qui peut-être est plus global, qui donne une vision plus large. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui dans le temps que nous sommes ensemble. Et je veux, pour faire ça, revenir sur un texte qui est connu, qui à la fois nous aide dans notre contexte actuel, parce que il y a beaucoup de cœurs qui sont troublés en ce moment. On le sait, on vit dans un contexte inédit, hein, il faut le dire. Si c'est au niveau de la crise sanitaire, c'est connu maintenant. Ça fait bientôt un an qu'on parle, qu'on vit ça. Mais en même temps, on sait qu'il y a des tensions au niveau politique, au niveau de société. Et avec cette crise sanitaire aussi, les problèmes de pauvreté, des entreprises qui sont en grand danger, et surtout des personnes qui sont dans des types d'entreprises qui sont des services à la personne, on sait que ces secteurs-là sont très, très touchés. Donc, on va lire ce texte ensemble et je vais avec vous méditer cette parole. Donc, Jean chapitre 14, versets 1 à 7, et je lis dans la Bible du Semeur. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez aussi là où je suis. Je ne vais pas parler beaucoup de cette partie du texte, mais je veux juste arrêter là et juste avec vous prendre une grande respiration et dire Amen. Jésus prépare une place pour nous. Il y a un héritage pour nous devant nous. On ne veut pas abandonner ce monde, on ne veut pas être inconscient de ce monde, mais la réalité, c'est que on est dans un temps de préparation, un temps de grâce. Ce temps de grâce est un temps où les gens peuvent se tourner vers Jésus parce que nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ en attente de ce jour quand Jésus va revenir et nous dire, c'est fait, c'est bon, viens avec moi. Et ce jour-là, ce jour doit nous consoler constamment, nous donner encouragement constamment, que Jésus, il est conscient de notre état, il est conscient que nos cœurs peuvent être troublés, il est conscient, il a promis à la fin de Matthieu 28 et à travers le texte qu'il est avec nous pour toujours, mais on sait qu'il y a un jour où on sera avec lui. Voilà, donc ça c'est juste un petit bonus, voilà, de se souvenir de ça. Et c'est vraiment une bénédiction de ça. Mais Jésus continue. Il leur donne cette consolation, cet espoir de l'avenir, mais il dit, verset 4, mais vous, on connaissez le chemin. Et donc Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Donc Thomas, il a une bonne question, il est très pratique, on le sait, Thomas, c'est son caractère, il veut voir, il veut toucher, il veut dire, voilà, c'est ça, il est sans doute un ingénieur de nos jours. Il n'est pas artiste, Thomas, il est dans le concret. Et Jésus dit quelque chose, et c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui, qui est vraiment incroyable. Il dit, je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Je vous demande de s'arrêter pour un moment. Ça, c'est la parole de Dieu aujourd'hui pour nous. Et je demande de prier avec moi. Notre Père Céleste, nous sommes si heureux de nouveau penser à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. D'entendre ses paroles, ce qu'il a dit, et de les lire non pas comme une parole qui était donnée il y a 2000 ans, 2000 ans, mais qui est une parole vivante, réelle pour nous aujourd'hui, qu'on puisse recevoir cette parole et la vivre. Au nom de Jésus. Amen. Le chemin. Je suis moi-même, moi, le chemin, répondit Jésus. Pour ceux qui aiment la culture populaire, Star Wars, il y a certains qui sont en train de dire, j'ai entendu quelque pareil comme ça, telle est la voie. Telle est la voie. Si vous suivez la série Mandalorian, vous n'avez pas besoin de le faire, mais il y a une phrase maintenant qui est là, telle est la voie. La voie, le chemin, c'est un concept, c'est une idée qui est très courante et on réalise que c'est un mot qui est riche. Thomas lui-même est parti sur l'idée d'un chemin physique, réel, comme si je veux aller à Montreuil, je connais le chemin. Bon, il y a plusieurs chemins. Je peux prendre le chemin du métro, je peux prendre le chemin avec la voiture. Il y a un chemin, je peux suivre. C'est une voie. Mais aussi, il y a des voies qui ne sont pas juste un chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible, on en parle, utilise cette notion de chemin qui est traduit des mots, soit d'hébreu ou grec, de plusieurs manières. Et c'est passionnant. Et on va prendre deux minutes juste pour voir un peu comment ça se présente dans la Bible. Donc, Thomas dit, Jésus dit, quel est ce chemin? C'est quoi ce chemin? Bon, en grec, je mets le mot odos. Si on fait une recherche sur ce mot dans nos Bibles, dans le Nouveau Testament, on verra que le mot qui est traduit chemin ici, qui est aussi traduit vers, voyage, voie, carrefour, sentier, route et doctrine. Voilà, ça, c'est large, n'est-ce pas? On passe, comme les définitions que vous avez devant nous, d'un sens propre. Une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage, a un sens métaphorique, c'est-à-dire imagé, une manière de se conduire, de penser, de décider, une doctrine. La voie ou le chemin, c'est à la fois quelque chose de réel où on doit marcher, mais aussi quelque chose qui est une manière de vivre, une manière de conduire. C'est la voie qu'on suit. Ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'était le même sens. Je donne deux exemples de l'Ancien Testament là, de Genèse 18-19, qui est très intéressant. C'est les anges qui parlent à Abraham et il dit, et c'est Dieu qui parle à travers, il dit, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc là, on a cette phrase, la voie de l'Éternel. Et cette voie de l'Éternel, c'est à la fois quelque chose à enseigner, mais aussi de pratiquer, n'est-ce pas? C'est un contenu et aussi une conduite. Et Dieu dit que on a choisi Abraham. Pourquoi? Pour qu'il ordonne à ses fils, à toute sa famille, de suivre cette voie, la voie de l'Éternel, et de suivre la voie, ça veut dire de marcher dans les commandements de Dieu. Et donc, on voit cette notion de voie-là. Et Proverbe 10, 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle provoque la ruine de ceux qui commettent l'injustice. De nouveau, on voit que cette voie, telle est la voie, la manière de vivre, quand on suit cette voie, ça nous protège. Là, c'est un rempart pour l'intégrité. Ça veut dire qu'on est protégé par cette voie, on vit par cette voie. Donc, on peut résumer dans l'Ancien Testament. Le chemin ou la voie de l'Éternel désigne un contenu à apprendre qui se manifeste dans une manière de vivre. Voilà, un contenu à apprendre et qui se manifeste dans une manière de vivre. En revenant sur notre texte, on peut voir ce changement. Donc Thomas était dans le réel, le concret. On veut aller au Père, il est où ce Père? On veut le voir. Et Jésus dit, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, c'est je suis moi le chemin, répondit Jésus. Et Jésus fait quelque chose qui est extraordinaire et qui est parfois très difficile à comprendre et à vivre. C'est-à-dire qu'il change le contenu, la réalité de la voie, du chemin. C'est maintenant non seulement un contenu à apprendre et un chemin à suivre ou une manière de vivre, mais aussi il dit que c'est moi, la personne de moi est le chemin. Et on va maintenant méditer ça un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que donc Voilà, comme je dis, Jésus transforme la notion du chemin. Il est le chemin. Et là, il faut s'arrêter et réfléchir à ça ensemble, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Parce que Jésus va maintenant, au lieu de dire que d'être un bon chrétien ou un bon disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas que vous devrez juste apprendre quelque chose et vous devrez juste vous conduire dans une certaine manière. Il dit non, c'est moi qui ai le chemin. Ça veut dire qu'on a besoin, et ça c'est la beauté de l'évangile, c'est que Jésus dit qu'il va être en union avec nous. La parole dit que sa vie devient notre vie. Et que la trajectoire de nos vies, c'est de ressembler à Jésus, d'être comme lui. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant interne à nous-mêmes. Le chemin est en nous, en gros. C'est-à-dire que Jésus est en nous. On a un nouveau cœur, on a une nouvelle manière de penser, toutes ces choses qui sont en nous maintenant. Donc, et ça, c'est un changement majeur dans la manière de l'ancienne façon de concevoir la voie de l'Éternel. Et on peut le voir dans le Nouveau Testament. On va montrer juste un exemple qui illustre bien cette notion. C'est en Actes 18, versets 24 à 28. Donc, il y a un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. Voilà, déjà, c'est un homme qui voyage parce qu'Alexandrie, c'est en Égypte. Donc, il arrive à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur. Voilà, donc, voilà, on retrouve cette notion, la voie du Seigneur, le chemin, cette contenu. Et parler avec enthousiasme de Jésus. Et là, on voit qu'il a compris quelque chose, que la voix du Seigneur est liée à cette personne de Jésus-Christ. Il avait sans doute entendu cette notion que Jésus est le chemin. C'est quelque chose qui était partagé déjà. Il a reçu ça. L'enseignement qu'il a porté sur Jésus, était d'une grande exactitude. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Ça veut dire qu'Apollos, il avait appris pas mal de choses et donc on voit qu'on est au début de l'Église. Et donc les enseignements de Jésus, la manière qu'il vivait, son œuvre, était en train de diffuser, être appris, mais il y a encore des choses à corriger. Et donc il se mit à, donc verset 26, il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue quand Priscille et Aquias l'eurent entendu. Il le prit avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Intéressant, notre narrateur qui est sans doute qui a écrit, c'est Luc. Pour lui, la voix du Seigneur, la voix du Dieu, c'est la même chose. Et on va revenir sur ça parce que c'est aussi ce que Jésus montre dans le texte qu'on étudie, la voix de Dieu. Comme il avait intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y ont encouragé vivement, écrivait aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants, car il refute avec vigueur en public les arguments des Juifs en démontrant par l'Écriture que Jésus est le Messie. Là, il y a Apollos qui connaissait la voie du Seigneur, il était bien instruit, il avait besoin d'apprendre encore plus. Et c'est une manière de vivre et aussi une manière de penser, c'est tout, c'est pas juste un contenu. Ce n'est pas juste une conduite. Et c'est quelque chose qui vient de nous. Donc, si on revient sur notre texte et on regarde, quand Jésus dit « Je suis moi-même le chemin », répondit Jésus, « la vérité et vie, personne ne va pas au Père sans passer par moi. » Et ça nous rappelle de Jésus qui a plus tôt dans l'évangile de Jean apparaît que « Je suis la porte » de la bergerie, je suis la porte des brebis, ils entrent dans la bergerie par moi. Donc voilà, donc de nouveau, pour passer par Jésus, pour aller au Père. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Et de nouveau, on est dans cette réalité que en connaissant Jésus, en connaissant sa personne, on entre dans la réalité de la voix du Seigneur. Et donc maintenant, je veux juste mettre quelques points sur comment on vit cette voix de Jésus, comment on le comprend et on le vit. Si Jésus est le chemin, ça veut dire quoi pour nous? D'abord, Jésus est le chemin à cause de son œuvre. J'ai déjà touché sur ça. Jésus est le chemin à cause de son œuvre. C'est-à-dire que c'est le cœur de l'Évangile. C'est à la croix qu'on comprend comment on peut être réconcilié avec Dieu. Parce que Jésus a pris nos péchés. Nos péchés sont pardonnés par Jésus, une fois pour toutes. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est à cause de l'œuvre de Jésus qui est le chemin. Il est la porte. Je ne vais pas tarder sur ces deux premiers, parce que c'est le troisième que je veux exposer un peu plus aujourd'hui. Ensuite, on a son enseignement. On connaît en Matthieu 28, quand Jésus dit « Va dans le monde entier et faire des disciples », en quoi? En les baptisant et en les enseignant tout ce que je vous ai enseigné, à obéir tout ce que je vous ai enseigné. Je vais le relire correctement. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus est le chemin non seulement à cause de son œuvre, il est le chemin aussi à cause de son enseignement. Mais encore plus, il est notre chemin et on apprend par sa manière de vivre. C'est-à-dire que Jésus, quand il dit que je vais entrer en vous et vous allez être comme moi, ce n'est pas simplement qu'on va penser comme Jésus, mais on va avoir une manière de vivre comme Jésus. Nous allons pas juste être réconciliés avec Dieu, mais aussi nous allons marcher. Et donc, on revient sur ce sens de la voix qui est un contenu et un comportement. Et Jésus est en train de nous dire que comme je suis le chemin, je suis la voix, c'est non seulement moi qui vous donne la manière de vivre, mais aussi c'est moi qui garantis cette manière de vivre parce que vous allez vivre comme moi. Nous sommes appelés à être comme Jésus. C.S. Lewis, dans son livre sur les fondements du christianisme, il parle de cette notion que toute église, le but de toute église, c'est de reproduire les petits Christ. C'est-à-dire que nous sommes tous en train de devenir. Ça veut dire que moi, devant mon écran, je vois Joseph, Daniel, Lionel et sa femme, et un autre. Et vous, là, et aussi tous qui sont les disciples de Jésus-Christ, vous êtes en train de devenir semblable à Jésus-Christ. Et il y a un contenu, une réalité là, de sa manière de vivre. Et quand on parle de sa manière à vivre, je veux juste, pour terminer, juste vous encourager dans un endroit, une manière qu'on peut peut-être apprendre de Jésus et dire, voilà, Jésus a vécu ça, j'ai besoin aussi de le vivre moi-même. Et c'est-à-dire d'apprendre l'obéissance, apprendre à obéir. Si vous avez des enfants, vous connaissez bien ce processus d'apprendre un enfant à obéir. Ce qui est incroyable et ce qu'on doit se souvenir, c'est que Jésus avait besoin d'apprendre à obéir. Regardez avec moi Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est écrit que pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert et parfaitement qualifié. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Quel privilège de réaliser que Jésus, dans sa vie terrestre, a appris à obéir. Et le texte est très clair. Cette obéissance, cette mise en pratique de la voix du Seigneur est vécue par ce qu'on souffre. Donc, j'ai entendu que Abdullah a parlé de ça la semaine avant. Donc, on revient sur les mêmes principes. C'est-à-dire que dans la réalité de nos souffrances, dans la réalité de la souffrance de Jésus, et là, on a en plein viseur sa réalité dans le jardin de Gethsémané, mais aussi à travers sa vie. Il a appris l'obéissance. Et ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Et aussi, ça prend de la foi. Je pense que quand on pense à cette notion d'apprendre l'obéissance, on peut facilement tomber dans le piège de mettre plus l'accent sur notre comportement et essayer de changer ce qu'on fait et être complètement crispé sur ce qu'on a fait et d'oublier que c'est Christ en nous qui le fait. Paul, aux Galates, c'est exactement le problème de l'Église à Galates. Ils avaient commencé bien par la foi et ils pensaient qu'ils pouvaient progresser dans la foi, dans leur sanctification, par leurs propres œuvres. De nouveau, c'est toujours de revenir sur cette grâce et de dire, voilà, j'apprends l'obéissance et quand je pense que je n'arrive pas, c'est qu'à ce moment-là, je regarde à Jésus et je regarde à ce texte-là et je dis, si je tombe, si je n'arrive pas, je suis faible, mais lui, il est fort. Et lui, il a passé par les souffrances comme moi et lui, il était exaucé à cause de sa piété. Et donc, moi, je peux vivre dans la même manière. Et on peut dire, il est notre chemin. Jésus est le chemin, il est notre voie. C'est-à-dire que on le suit, on vit avec lui à l'intérieur de nous. Les disciples, à ce moment, en Jean chapitre 14, étaient troublés. Et Jésus était en train d'annoncer plein de choses avant sa mort et sa résurrection. Et ce qu'il a fait, c'était de poser ces bases-là. Et il a transformé cette notion de chemin à un comportement à avoir, à un contenu, à sa personne. Et c'est l'appel pour nous, constamment, d'apprendre comment vivre avec lui et d'obéir. Et c'est un processus, mais ça commence avec ce qu'il a déjà fait en nous. Et c'est la réalité qui vient. Ma prière pour nous, c'est que on apprend à suivre la voie de Jésus et qu'on s'encourage mutuellement dans ce processus. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide et on se réjouit parce que Jésus est notre chemin, il est notre voie. Prions. Merci notre Dieu parce que quand on considère ta parole, on est tellement encouragé parce que tu es là avec nous. Et tu nous enseignes. Et je prie pour mes frères et sœurs. D'abord, je prie qu'on puisse tous avoir cette paix, cette connaissance que Jésus est vraiment notre chemin, il est notre vie. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette réalité-là, nous pouvons agir, aller et apprendre à obéir. Apprendre à discerner le bien et le mal, apprendre à vivre pour lui, non pas pour prouver quelque chose, mais pour exprimer ce qui est déjà vrai en nous. Merci parce que le pardon est là. Merci parce que tu es fidèle et juste de nous pardonner, mais aussi que dans cette communion avec Christ, nous pouvons exprimer sa vie autour de nous. Et je veux demander surtout pour ceux qui vivent dans des situations difficiles en ce moment, peut-être au sein de leur famille, dans leur travail, dans d'autres contextes, que la paix de Jésus soit sur eux et qu'ils puissent avoir le discernement, la capacité de voir comment Jésus est leur voie, Jésus est leur chemin. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.
Amen.